Fait chaud, n'est-ce pas, depuis quelques jours, hein? La chaleur est intense. L'été est arrivé, hein? Tu as un peu de bonheur au mois de juin, on peut dire que l'été est déjà arrivé. Et la liturgie reflète ça aussi, parce que j'ai des petites nouvelles pour vous aujourd'hui, en lien avec les lectures que nous venons d'entendre. Vous l'avez peut-être remarqué dans le Prions en Église, depuis lundi, nous avons laissé de côté l'Évangile selon saint Marc, dont nous avions entrepris une lecture des passages les plus importants durant le temps ordinaire depuis le début de l'année. Et là, depuis lundi matin, nous avons pris en main l'Évangile selon saint Matthieu et nous avons commencé à en lire des textes de manière systématique. Et nous allons en entendre des extraits tout l'été. Donc, tous les jours, les messes sur semaine cet été, à part évidemment les solennités, les fêtes ou les mémoires obligatoires, puis les dimanches évidemment, mais les jours sur semaine ordinaires en couleur verte, là, comme je porte présentement, ce seront des textes de l'Évangile selon saint Matthieu. Et ça a débuté lundi matin avec les premiers versets du chapitre 5. Et vous savez ce dont il s'agit, donc il s'agit des premiers versets du sermon sur la montagne. Donc lundi c'était les béatitudes, hier c'était l'évangile du sel de la terre, la lumière du monde. Et nous allons continuer comme ça. Donc tous les extraits principaux qu'on peut trouver entre évidemment le début de l'évangile qui est l'enfance, un peu quelques extraits par rapport à l'enfance ou au début de la vie publique de Jésus, et la toute fin qui sont évidemment le récit de la passion de Jésus qu'on entend dans un contexte différent. Mais sinon, donc systématiquement des textes de l'Évangile selon saint Matthieu, on peut donc dire que ce qu'on va avoir au cours des prochaines semaines, ça va être une belle catéchèse. L'Évangile selon saint Matthieu est considéré comme l'Évangile catéchétique par excellence parmi les trois évangiles synoptiques. Il n'est pas rare, lorsqu'on veut citer un enseignement de Jésus, qu'on va aller piger dans l'Évangile selon saint Matthieu. C'est celui, d'ailleurs, d'après les biblistes, qui nous rapporte le plus grand nombre de paroles de Jésus, ce qui est drôlement intéressant quand on veut savoir ce que Jésus a dit, si c'est possible de le citer tel quel. C'est aussi un évangile qui a été écrit par un des 10 apôtres, donc un des douze apôtres, Matthieu, donc considéré comme un collecteur d'impôts. Son identité ou son association avec l'évangile qui porte son nom remonte au deuxième siècle, au tout début, donc une trentaine d'années après la composition, la rédaction de l'évangile. On a donc de bonnes raisons de croire qu'il y aurait un lien entre Matthieu et peut-être un de ses disciples qui aurait pris le témoignage de Matthieu, qui l'aurait mis par écrit. C'est un évangile qui était adressé aux Juifs convertis au christianisme. Donc clairement, à chaque fois, et ça c'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans l'évangile selon saint Matthieu, tout est écrit en fonction de l'accomplissement des Écritures. Les références à l'Ancien Testament sont nombreuses. C'est un texte qui a été écrit en grec, mais il y a beaucoup de sémitisme à l'intérieur de l'Évangile, et ce sera rien d'étonnant, même si Matthieu était juif lui-même, quand on considère que le grec était à l'époque de Jésus ce que l'anglais est de nos jours. C'était la langue du commerce, une langue internationale qui était utilisée dans tout le bassin méditerranéen. On dit que les trois thèmes principaux qui sont abordés dans l'Évangile selon saint Matthieu tournent autour de la justice, de la réconciliation et de la fidélité. C'est fort intéressant et j'y reviens dans un instant. Et nous avons aussi en première lecture un texte de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Et là encore, décidément, on a commencé lundi une lecture de cette lettre de Paul et on en a pour deux semaines environ à entendre des extraits. La deuxième lettre, évidemment, qui est la suite de la première lettre aux Corinthiens. Mais là, Paul est un petit peu plus vigoureux dans cette lettre par rapport à la première. Il saute du coq à l'âne. On dirait qu'il se sent en danger, qu'il sent son autorité minée. Difficile de savoir exactement pourquoi, mais on peut penser qu'une des raisons, c'est qu'il y avait probablement des Juifs convertis au christianisme qui étaient très, très attachés aux traditions du judaïsme et qui voulaient les imposer aux autres. Alors là, Paul essaie de toutes les manières de montrer le lien, la continuité et la discontinuité qui existent entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ce qui d'ailleurs est une intention de Matthieu dans son évangile, de montrer la continuité qu'il y a entre le peuple d'Israël et l'Église que Jésus a fondée et les différences qui existent. Ce qui m'amène donc à ces trois mots-clés que j'ai voulu nommer par rapport à l'Évangile selon saint Matthieu, qui sont la justice, la réconciliation et la fidélité. Il se trouve que le lien que je me permettrais de faire entre la première lecture et l'Évangile, je prendrais un texte de l'Évangile selon saint Matthieu, mais qui on n'a pas entendu aujourd'hui. C'est le verset suivant, qui appartient aux paroles que Jésus prononce, mais que dans le lectionnaire, on a décidé d'ajouter à l'Évangile de demain. Dieu seul sait pourquoi. Demain matin, à la messe, première parole de l'Évangile, ce sera la dernière que Jésus prononce. Et qu'est-ce qu'il dit après avoir dit que Jésus est venu accomplir la loi? Et on sait ce que ça veut dire accomplir pour un juif, ça veut dire le mener à sa perfection, à son plein épanouissement, à son plein accomplissement. Alors il ajoute, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ainsi, on peut faire un saut au premier texte de la première lecture et de voir que Paul, ici, est en train de montrer que la gloire qui était proposée par Dieu à travers de la loi était tout à fait passagère par rapport à la nouvelle alliance que Jésus veut nous proposer, qui est une alliance non pas dans la recherche d'un accomplissement, d'une observance de règlements qui, dans certains cas, sont purement humains, mais une recherche d'un changement du cœur et d'abord et avant tout d'une réconciliation avec Jésus. Parce que pour un Juif qui voulait observer la loi, il y avait seulement deux possibilités. Soit qu'on observe la loi, qu'on y est obéissant, et ainsi on est juste, et si on ne l'observe pas, on est condamné. Il n'y a pas de milieu. Avec Jésus, c'est tout autre chose. C'est le ministère de la justice définitivement, mais c'en est aussi un de la réconciliation. Parce que celui qui nous justifie, ce n'est pas l'observance de la loi, c'est Jésus lui-même. Ainsi donc, voyez le thème qu'on nous a proposé depuis déjà 2 ans, je crois, dans l'archidiocèse, celui que le Christ est vraiment tout pour nous à l'avant. Hein? Vous le voyez ici affiché depuis 2 ans. Excusez-moi. Ce matin, alors que nous nous apprêtons à recevoir le pain de l'Eucharistie, nous voulons nourrir en nous ce désir d'accomplir la volonté. N'est-ce pas d'ailleurs ce que l'équipe de rédaction du Prions en Église nous a proposé en nous suggérant la prière d'ouverture de ce jour qui m'apparaît tout à fait appropriée en lien avec les lectures? Seigneur, fais que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Amen.